go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. So you gotta let me know.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Bac FM dans l'émission L'écho des jeunes. Autour de la table pour cette émission du mois de février, nous avons Cléo, Antoine et Antoine. Bienvenue.
Bonjour.
Bonjour Virginie, bonjour à tous.
Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'espace, la tête dans les étoiles. Wouh ! En fait, l'espace, c'est un sujet à la fois énigmatique, sérieux et scientifique, fantasmagorique, et nous pourrions trouver bien d'autres adjectifs. Notre émission sur l'espace ne pouvait pas faire l'impasse d'une rapide présentation de Sophie Adenau. Ce nom vous dit quelque chose ?
Oui.
Mais oui, vous savez, la nouvelle astronaute française, eh bien, elle est née dans la Nièvre, à Cône très exactement, et a vécu à Infi. Elle a 40 ans, elle est ingénieure, pilote d'hélicoptère d'essai et officier de carrière au sein de l'armée de l'air et de l'espace.
Pas mal.
Elle a obtenu plusieurs diplômes, je vous invite à aller voir plutôt sur internet, je n'ai pas fait la liste parce qu'elle en a beaucoup, mais notamment en master. Un master en sciences des facteurs humains aéronautiques et spatiaux, c'est pour vous dire à quel point elle est pointue, et elle s'est spécialisée dans la mécanique du vol aérospatial. En plus du français, sa langue maternelle, Sophie maîtrise l'anglais, elle parle aussi l'allemand, le russe et a des notions d'espagnol. Donc en fait, elle fait partie depuis le mois de novembre 2022 de la nouvelle promotion des 17 astronautes sur 22 523 candidats de l'Agence spatiale européenne. Ce parcours nous démontre que les femmes peuvent faire des études et accéder à des postes importants et prestigieux aussi bien que les hommes. Mesdemoiselles, autorisez-vous à avoir la tête dans les étoiles et que vos envies et vos rêves deviennent réalité. Vous pouvez suivre Sophie Adenau sur les réseaux sociaux, son Insta c'est soph_astro. C'était la petite introduction pour notre émission sur l'espace. Nous allons retrouver dans un premier temps Cléo qui va nous parler de l'origine de l'univers, puis nous allons interviewer, en tout cas Antoine Charrière va interviewer Arthur Boursigaud qui est un astronome amateur. Ensuite, Antoine Douarieux nous fera une chronique sur la vie extraterrestre, les légendes et petites histoires, je crois.
Plutôt sur les différentes théories du complot qui ressortent sur l'espace.
Voilà, et nous finirons sur une chronique « L'espace et la culture » par Antoine Charrière. Après l'énonce de ce beau programme, je propose de laisser la parole à Cléo.
Parmi les questions que l'homme se pose depuis qu'il est homme, on trouve la question des origines. D'où venons-nous? D'où vient le monde? C'est à cette question qu'on va essayer de répondre aujourd'hui en exposant la théorie très connue du Big Bang. Donc, cette théorie a été proposée par l'astrophysicien belge Georges Lemaître en 1927, puis mise en évidence par l'astronome américain Edwin Hubble en 1929. Donc, c'est une théorie qui est aujourd'hui acceptée par la majorité de la communauté scientifique comme l'explication la plus probable à la création de l'univers. Donc, cette théorie se base sur un principe très simple mais qui est fondamental. L'univers est en perpétuelle expansion. Il y a plusieurs milliards d'années, l'univers serait né sous la forme d'un point chaud et infiniment dense, large de quelques millimètres et semblable à un trou noir suralimenté. Il y a 13,7 milliards d'années, ce point explosa violemment. De cette explosion naquirent la matière, l'énergie, l'espace et le temps. Puis, il y a eu deux grandes étapes qui permirent de créer l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui, l'ère du rayonnement et l'ère de la matière. Donc premièrement, l'ère du rayonnement. Elle a pris place pendant les premières dizaines de milliers d'années de vie de l'univers. Elle commence par l'époque de Planck, où l'univers venait juste d'être créé, et il n'y avait pas de matière, que de l'énergie et de la superforce, qui est l'ancêtre des forces de la nature. À la fin de cette époque, la gravité se sépare de la superforce. On passe alors à l'époque de grande unification, qui se termine quand l'interaction forte se détache à son tour de la superforce. Vient l'époque de l'inflation cosmique, qui correspond à une expansion très rapide de l'univers, qui va passer de la taille d'un atome à celle d'un pamplemousse. Donc l'univers était alors très très chaud. Puis, lors de l'époque électrofaible, les deux dernières forces se séparent. Il s'agit de la force magnétique et de l'interaction faible. C'est ensuite l'époque des quarks, où tous les composants de l'univers sont présents, mais celui-ci est bien trop chaud et trop dense pour que les particules subatomiques puissent se former. L'époque hadronique commence lorsque l'univers s'est assez refroidi pour permettre aux quarks de former les protons et les neutrons, puis laisse place à l'époque leptonienne et l'époque nucléaire, durant lesquelles ces mêmes protons et ces mêmes neutrons vont pouvoir fusionner pour former le noyau du premier élément chimique de l'univers, l'hélium. Donc la création de la matière par la création d'hélium entraîne un changement d'ère. On passe à l'ère de la matière puisque l'univers est capable de créer des éléments constituant la matière. Cette ère compte trois époques et dure des milliards d'années. Elle débute par l'époque atomique. La température est suffisamment basse pour que les électrons s'accrochent au noyau. C'est la création d'un nouvel élément chimique, l'hydrogène. L'époque nucléaire découle de l'apparition de ce nouveau noyau. L'hydrogène et l'hélium vont créer des nuages atomiques dans l'univers contenant des petites poches de gaz qui, grâce à la gravité, vont pouvoir collecter des atomes. Ces amas d'atomes seront la base de notre galaxie. Enfin, lors de l'époque stellaire, les étoiles vont commencer à se former au sein de ces galaxies. Donc grâce à la chaleur des étoiles, l'hydrogène et l'hélium vont pouvoir se convertir pour former les autres éléments qui composent le monde. Ensemble, tous ces éléments vont donner les planètes, les lunes, la vie et tout ce qui nous entoure. Donc si la théorie du Big Bang est la théorie la plus acceptée concernant la création de l'univers, c'est qu'il y a des observations qui sont là pour l'appuyer. Par exemple, en 1929, Hubble a démontré que les galaxies s'éloignent rapidement les unes des autres, ce qui est le cas selon le modèle du Big Bang et vient donc le confirmer. En 1965 a aussi été découvert le fond diffus cosmologique, qui est un rayonnement micro-ondes qui baigne tout l'espace et qui est comme un écho lumineux du Big Bang. Donc les scientifiques peuvent y observer des vestiges de la période chaude primitive de l'univers. L'abondance dans l'univers des éléments hélium et hydrogène, qui comme nous l'avons vu sont les premiers à s'être formés, permettent aussi d'appuyer cette théorie. Cependant, tous les secrets de la création de l'univers ne sont pas encore percés, bien que les avancées soient phénoménales depuis un siècle. Le mystère reste entier sur les tout premiers instants du Big Bang, car les instruments et les méthodes scientifiques et mathématiques ne sont pas assez performants aujourd'hui pour comprendre par exemple le fonctionnement de la gravité à une échelle aussi petite. De nombreuses découvertes restent donc à faire dans ce domaine afin de répondre enfin à la question « Comment s'est créé l'univers ?»
Merci Cléo. Dis donc, t'as fait beaucoup de recherches, en tout cas c'est hyper riche, merci. Moi, j'ai appris plein de choses en t'écoutant. Je vous propose de faire une petite pause musicale. Daft Punk, Very Disco. De retour dans l'émission L'écho des jeunes, je vous propose de retrouver Arthur Boursigaud, astronome amateur, et Antoine Charrière qui va lui poser quelques questions.
Tout à fait. Bonjour Arthur.
Bonjour Antoine.
Bienvenue sur Bac FM. Nous sommes ravis de t'accueillir dans cette émission L'écho des jeunes. Le sujet d'aujourd'hui, c'est donc l'espace. Et toi, tu es passionné d'astronomie. Et donc, je voulais savoir depuis quand et comment est venue cette passion.
Alors, c'est une passion, je ne saurais pas dire exactement quand est-ce qu'elle est venue, mais c'est le genre de passion qui naît, disons, de la curiosité qu'ont naturellement beaucoup d'enfants, j'imagine. Donc, c'est un sujet qui passionne beaucoup parce que, voilà, on peut rapidement montrer des images dans des livres pour enfants. Et moi, je pense que c'est comme ça que c'est né, à cette époque-là.
Ok. Et donc, si j'ai bien compris, tu fais partie d'une association.
Alors, je fais partie d'une association qui n'est pas nivernaise, hein, qui est une association qui s'appelle AstroKeras. C'est une association qui est basée donc dans le Keras, dans les Alpes, et qui, en gros, gère un observatoire qui met du matériel, disons, professionnel à disposition d'amateurs plus ou moins confirmés.
Ok, et du coup, et qu'est-ce que tu ou vous observez d'ailleurs, est-ce que vous faites ça en groupe?
Alors, on fait ça en groupe, oui, tout à fait. En fait, l'observatoire permet à des missions de monter. Et ces missions, ce sont des missions d'observation qui durent une semaine. Donc, souvent, il y a un chef de mission qui part avec sa petite équipe. Et puis, voilà, on fait des observations.
Et je voulais savoir, du coup, est-ce que c'est dans quel but vous observez? Est-ce que c'est pour faire des photographies ou vraiment il y a une démarche scientifique?
Alors, ça dépend beaucoup des missions qui montent. Nous, en l'occurrence, quand on y va, c'est vraiment pour faire de l'astrophotographie avec des télescopes qu'on pourrait vraiment pas utiliser dans d'autres contextes. Hein. C'est vraiment des très grands télescopes dans des coupoles. Tout automatisé, enfin, c'est vraiment du matériel super.
Okay.
Mais il y a aussi des missions qui peuvent monter pour des buts plus scientifiques, disons, alors sans être révolutionnaire, hein, bien sûr, mais il y a des gens qui font des observations amateurs qui peuvent servir à des buts scientifiques. Je pense par exemple à des missions d'observation solaire qui suivent la surface du Soleil un peu en temps réel. Il y en a aussi qui font de l'observation d'astéroïdes, par exemple, qui essayent de suivre des astéroïdes. Voilà, ça peut être de l'astronomie, disons, professionnelle, mais participative, quoi, qui utilise les observations des amateurs.
Ok. Et toi, ça a été quoi ton plus beau souvenir ou ton souvenir préféré en ayant fait ces observations?
Alors, ça c'est difficile à hiérarchiser, mais je pense qu'un de mes plus beaux souvenirs, c'est la première galaxie qu'on a observé dans le grand télescope, le T62 de l'observatoire de Saint-Véran, donc dans le Keras. Et ce qui a vraiment été frappant, c'est que donc on a fait une observation de plusieurs heures. Et en fait, l'image telle qu'on la publie, elle n'est pas immédiatement de qualité. Donc il faut d'abord la traiter, il y a un long traitement à faire. Toutes les techniques de traitement. Et mon plus beau souvenir, c'est justement le moment où, quand on a appliqué le traitement, où j'ai vu l'image de ce qu'on avait observé. C'est la première fois, en fait, que je voyais à quel point le traitement avait un effet incroyable sur les images qu'on observe. Et d'un seul coup, on s'est mis à voir tout un tas de détails dans cette galaxie qu'on observait. Enfin, c'était incroyable. On a vu des galaxies apparaître en fond qu'on ne voyait pas sur l'image d'origine. Donc ça, c'est un très bon souvenir.
Ok. Et bah oui, ça doit être super impressionnant de voir ça. Et est-ce que, parce qu'il y a une sensation chez les astronautes, qui, quand on parle à des astronautes, ils nous disent que quand on est haut dans l'espace et qu'on observe la Terre, on se sent tout petit et qu'au final, on oublie, on se dit que chaque problème, en fait, c'est rien du tout. Est-ce que toi, de en bas, en observant en haut, tu te dis la même chose?
Oui. Alors, je ne peux pas comparer, moi je ne suis jamais allé dans l'espace. Mais moi j'ai vraiment des souvenirs de vertige, pas forcément en faisant les observations, mais en y réfléchissant soit plus tard, soit plus tôt. Parce qu'évidemment, quand on observe des galaxies, on a tout de suite à se poser la question de quelle taille elles font, à quelle distance elles sont. Et en fait, c'est des ordres de grandeur qui sont absolument impossibles à appréhender pour le cerveau humain. Mais quand on arrive, disons, à toucher du doigt un petit peu les ordres de grandeur de distance, ouais, c'est vraiment vertigineux. Enfin, moi, j'ai déjà eu ce sentiment de « oh là là, mais C'est vraiment incroyable la petitesse de notre existence. Ça m'est arrivé, ouais.
Et toi, t'aimerais, pourquoi pas, si un jour on voit que le tourisme spatial se développe, t'aimerais, toi, aller dans l'espace pour observer de plus près ?
Franchement, je sais pas. C'est une question difficile. Je dirais plutôt non, parce que justement, j'ai pas nécessairement besoin de voir la Terre de l'extérieur pour sentir ce sentiment de vertige vis-à-vis de l'espace. Et finalement, ce qui me plaît beaucoup dans l'astronomie, c'est l'observation. Et les observations qu'on peut faire depuis la Terre, elles sont en suffisamment grand nombre pour que ce soit une source absolument intarissable d'objets à observer et de comment on les observe. Donc, j'irai pas dépenser des milliers d'euros pour faire un petit vol suborbital. Juste pour aller voir à quoi ressemble la Terre de loin. Voilà, même si je dis ça maintenant, mais peut-être que si ça se démocratisait vraiment, peut-être que j'y réfléchirais à deux fois. Oui.
Et sans forcément du coup aller dans l'espace, est-ce que toi, ça te dirait d'intégrer un observatoire professionnel, par exemple ? Parce que du coup, c'est pas ton métier de faire ça.
Alors, c'est pas mon métier. La question s'est posée parce que j'ai fait en fait des études d'astrophysique, vraiment. J'ai eu un master d'astrophysique à l'Observatoire de Paris, donc... Donc disons que bien sûr l'idée m'est passée par la tête de travailler pour des observateurs professionnels. Maintenant, actuellement, plutôt pas, ça reste vraiment une passion que je fais en amateur. Faut se dire aussi que l'astronomie professionnelle n'a rien à voir avec l'astronomie amateur la plupart du temps. Il y a beaucoup de métiers d'astronomie qui ne concernent pas l'observation technique, au sens aller pointer un télescope sur une planète et regarder à quoi elle ressemble. Souvent, ce travail-là est fait plutôt avant le travail professionnel, qui, eux, vont travailler à la théorie, à vérifier les modèles. Donc, c'est pas tellement les mêmes métiers. Après, ça reste très intéressant, c'est des métiers que j'aime beaucoup. Hein. Disons que maintenant, je pense que je garderai ça en passion amateur plutôt que professionnelle.
Et alors, pour finir, et si on parlait un peu à nos auditeurs maintenant, qui voudraient peut-être se lancer aussi dans cette activité que tu aurais convaincu, qu'est-ce que tu voudrais dire à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui, peut-être les contacts, le budget, le temps qu'il faudrait ?
Alors, si c'est se lancer dans l'astronomie amateur, il faut vraiment y aller petit à petit. Je vais d'abord parler du matériel, peut-être. Pour le budget qu'il faut avoir, ça peut être illimité. On peut vraiment ne jamais s'arrêter d'acheter du matériel pour faire des observations de plus en plus. Donc il faut pas se lancer dans « oh, je vais m'acheter des trucs de fou, je vais tout de suite me faire un matériel incroyable d'observation ». Faut commencer simple, faut être curieux pour commencer. Faut regarder le ciel, essayer de voir si on peut repérer les constellations, éventuellement à... Je sais pas, s'abonner à des revues comme Ciel et Espace qui parlent beaucoup du sujet, regarder des images, regarder voilà, puis peut-être s'acheter une paire de jumelles pour voir ce qu'on peut voir avec, et puis peut-être après s'acheter une lunette. Et une fois qu'on s'est acheté une lunette et qu'on a fait le tour de la question, voir si on peut pas s'acheter un télescope un peu plus grand, voir si on peut pas s'acheter une monture, l'automatiser, un appareil photo pour faire de l'astro, etc. On peut aller toujours plus loin, mais faut commencer. Disons bas pour monter petit à petit si ça nous plaît. Ensuite, pour ce qui est des contacts, dans la Nièvre, on n'est pas particulièrement fourni en contact vis-à-vis de l'astronomie. Cependant, il y a quand même un club d'astronomie à Incy. C'est le club de la MJC d'Incy, je crois. Voilà, qui est un petit club d'astronomie, mais qui malgré tout a un petit observatoire, voilà, avec un télescope monté qui est de bonne qualité. Donc, si on est dans la Nièvre et qu'on veut commencer... l'astronomie, je pense que les meilleures personnes à qui s'adresser, c'est ce club d'astronomie de la MJC d'Incy. Voilà, pour les contacts.
Très bien. Et peut-être aussi le temps que ça prend dans ta semaine, dans tes journées, dans combien de temps ça prend ?
C'est pareil, c'est très variable en fonction de ce qu'on veut faire. Y a des astronomes amateurs, dès qu'il y a un ciel un peu clair, par tous les temps, ils vont sortir leur télescope et pointer des objets, faire de la photo, notamment sur les ciels d'hiver qui sont à la fois plus longs et souvent plus froids, donc de meilleure qualité pour les observations. Mais il y a aussi moi je suis plutôt un astronome d'été, hein, c'est-à-dire que moi je vais pas sortir mon télescope tous les soirs, je vais plutôt attendre une belle nuit d'été. Et puis c'est une activité que je conseille de partager, ça se partage très bien. Il vaut mieux sortir son télescope un soir où, tiens, on a deux, trois invités que ça intéresse, on sort le télescope, on le met dans le jardin, et voilà, moi j'y passe plutôt du temps comme ça, plus bien sûr cette histoire de l'association Astrokeras qui elle me prend régulièrement une semaine complète en été, où là on vit la nuit pour les observations. Mais c'est variable, hein, ça dépend vraiment des gens et du temps qu'on veut y passer. On peut en théorie y passer toutes les nuits sans nuages disponibles dans l'emploi du temps, donc ça fait disons 50% des nuits.
Ok, bah écoute, parfait. J'espère que tous les intéressés auront entendu ce message. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission.
Eh bien, avec plaisir.
Ça a été un plaisir de parler avec toi. Et puis, on te retrouve peut-être... Est-ce que vous avez un endroit où vous postez les photos que vous prenez
Alors oui, il y a un forum public, hein, de l'association sur le site de Astrokeras, l'association... et sur ce forum, il y a toutes les images prises par les missions qui montent. Donc on peut aller les voir. Et je crois aussi, par exemple, que si on va sur le site du club d'astronomie d'Arcy, ils postent régulièrement leurs images. En ce moment, par exemple, il y a une très belle photo de Mars sur la page d'accueil. Donc voilà, il y a tout un tas de sites disponibles pour poster des photos d'astronomes amateurs.
Eh bien, merci beaucoup.
Eh bien, merci à toi.
Je vous propose de passer à la chronique d'Antoine Douarieux. À toi, Antoine.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un sujet qui est très présent sur Internet. C'est ces fameuses théories du complot. Alors, je demande qu'on mette la musique de Requiem for a Dream dans mes oreilles, et on peut y aller. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. À chaque fois, je me demande pourquoi telle personne pense cette idée qui me semble bizarre, et qui semble bizarre pour l'ensemble de la population. Au lieu de la dénigrer, je vais chercher l'origine de ces complots, et dans certains cas, c'est intéressant car on a vraiment une bataille de l'information qui va de la bien-pensance à un monde qui serait là que pour le bien face à des hommes envieux de plus de vérité. Ils cherchent la vérité peut-être là où elle y est déjà. Et on ne sait pas donc où se placer, hein. Je pense à ce complot, à cette idée des Bilderberg que je vous invite à explorer. C'est intéressant pour le coup, on est vraiment dans cette situation où les gens qui pensent que le mal est là, que le complot est là, ont des raisons de le croire. Mais d'un autre côté, on n'a pas envie d'être insulté de complotiste. C'est effectivement un qualificatif dérangeant si on nous met dans la même sphère que ceux dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc je développerai deux théories sur l'espace et ce qui l'entoure. Premièrement, Apollo 11 n'a jamais existé. La NASA nous ment. Et deuxièmement, ça je pense que tout le monde le sait autour du studio, la Terre est plate. Donc commençons donc par Apollo 11. Le 29 juillet 1969, dans un contexte de guerre froide et de conquête spatiale, les Américains posent un pied sur la Lune et avec cela réaffirment leur puissance technologique. Et si les Américains n'avaient fait que ça pour une question d'intérêt? Et si Stanley Kubrick était le réalisateur d'une histoire en fait tournée dans un studio? C'est ce que beaucoup de personnes pensent à l'appui de différentes entre guillemets preuves que nous allons étudier, et bien sûr comme des inspecteurs, démanteler. La plus connue, semble-t-il, est cette histoire du drapeau américain qui ne pourrait pas flotter car il n'y a pas d'atmosphère ni de vent sur la Lune. C'est effectivement le cas, mais il suffit de regarder cette photo, de zoomer un peu et on se rend compte que le drapeau est en fait tenu par deux barres perpendiculaires. Outre ça, la mission Apollo 11 a permis de ramener de la roche lunaire sur Terre, plus de 400 kg, ce qui nous a permis de belles avancées, et cette roche, selon les analyses, a un taux de radioactivité et une composition qu'on ne trouve dans aucune autre roche terrestre. Dernier argument pour détruire cette théorie que nous ne sommes jamais allés sur la Lune, celui qui me plaît d'ailleurs sûrement le plus, c'est celui qui fait appel aux mathématiques. C'est une démonstration remplie de classes et qui nous rappelle peut-être certaines histoires personnelles. À la NASA, en 1969, il y avait environ 400 000 employés. Alors, vous vous rappelez peut-être de la fois où un ami a dévoilé votre secret à un autre. Eh bien, un mathématicien irlandais, David Robert Grimes, a calculé que dans le cas de la plus extrême confidence, le secret aurait été dévoilé en 3 ans et demi, et cette probabilité a aujourd'hui sûrement augmenté avec la potentielle erreur d'envoi de mail ou de message. Alors imaginez si 400 000 hommes avaient gardé le secret depuis plus de 50 ans. Ce serait contre la nature humaine, à moins que les employés de la NASA soient des aliens.
Autre théorie.
Deuxième théorie, la Terre est plate. Vous avez peut-être entendu récemment qu'une étude a été menée et que d'après celle-ci, 20% des jeunes pensent que la Terre est plate. C'est le symptôme d'une guerre d'information sur Twitter et de la confiance qui a quitté notre génération face aux médias les plus classiques. Premièrement, pour réfuter cette théorie, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur YouTube sur une vidéo de Jamie. Donc l'argument d'autorité suffit, si Jamie dit que la Terre est ronde, c'est qu'elle l'est. Plus sérieusement, penchons-nous sur les arguments classiques qui nous prouvent que la Terre est ronde. 3e siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène place deux bâtons perpendiculaires au sol dans deux villes d'Égypte actuelles. Il remarque que, à un de ces lieux, le bâton n'émet pas d'ombre, donc que le soleil se trouve parfaitement au-dessus de ce lieu. Mais alors, si la Terre était plate, à cette heure, il n'y aurait pas d'ombre nulle part. Or, à cette même heure, si on place un bâton à une distance significative, donc soit environ 500 km, on se rend compte qu'elle n'est pas de la même envergure. Donc, c'est que la Terre est courbée. Deuxième argument, celui de l'horizon. Classique, si vous observez un bateau partir à l'horizon sur la mer, vous le verrez plonger au fur et à mesure, jusqu'à ne plus le voir, et ça, peu importe la lunette que vous utilisez. Si la Terre était plate, on le verrait infiniment. Troisième argument, celui du lever de soleil. Si la Terre était plate, le soleil se lèverait à la même heure, partout. Et quatrième argument, étant donné qu'on a prouvé que nous sommes allés dans l'espace, nous avons des photos qui nous montrent que la Terre est ronde. Une autre théorie qui ressort sur l'espace, c'est celle des ovnis, des objets volants non identifiés. Les Américains en raffolent, mais on ne va pas plus les développer. Je laisserai l'artiste qu'on va écouter le faire. On s'écoute donc Jean Jass, OVNI.
Tu me verras jamais parler au fil. Tu me verras jamais parler au fil. Bien sûr que ça existe, les ovnis. Par contre, la justice, ça n'existe pas. Les histoires qui durent, ça n'existe pas. La terre entière veut me baiser très fort. Oh, oh. Désolé, ça m'excite pas.
Je suis entouré de cons comme dans les films des frères Cohen. Attends, je suis peut-être le con du film, les frères Cohen. J'étais déjà le meilleur avant de me faire connaître. J'écris de moins en moins bien pour me faire connaître. Yeah, c'est le cycle naturel du rap. C'est pas vraiment une affaire durable. D'abord le boom bap, puis les refrains autotunés. C'est comme le beau temps, ça va pas durer. La vérité, brosse un micro, je les tue tous. La vérité, si tu fumes sur mon joint, tu tousses. Bien sûr, je mens parfois pour avoir la paix. Viens bébé, on s'aime et on parle après.
Fume comme dans un coffee. Tu me verras jamais parler au fil. Tu me verras jamais parler au fil. Bien sûr que ça existe, les ovnis. Par contre, la justice, ça n'existe pas. Les histoires qui durent, ça n'existe pas. La terre entière veut me baiser très fort. Oh, oh. Désolé, ça m'excite pas.
Je me souviens de rien comme mamie. Je sais plus si c'est un verre de rhum qu'on m'a mis. Si je bois pas, je vais trouver le temps long. J'aurai plus de mal à faire semblant qu'on est amis. Mon frère Nabil m'appelle le Grinch. J'suis pas en club, j'ai pas envie. J'suis pas en ville, j'suis chez moi. Rideau fermé, j'écris des textes. Je vous déteste. Violent comme un gang de motards. J'avais un cœur mais c'est trop tard. À quoi bon, y'a que la mort ici. C'est obligé, y'a de la vie autre part.
Fume comme dans un coffee. Tu me verras jamais parler au fil. Tu me verras jamais parler au fil. Bien sûr que ça existe, les ovnis. Par contre, la justice, ça n'existe pas. Les histoires qui durent, ça n'existe pas. La terre entière veut me baiser très fort. Oh, oh. Désolé, ça m'excite pas.
De retour sur Bac FM, nous venons d'écouter OVNI de Jean Jass, extrait donc de son album Hat-Trick, et nous allons désormais faire une chronique. Je vais laisser plutôt Antoine la faire, sa chronique sur l'espace et la culture.
En effet, merci Antoine, l'espace fait fantasmer, l'espace fait rêver, mais l'espace fait aussi peur, inquiète et interroge. C'est pourquoi certains créateurs ont décidé de mettre ces émotions en images, en mots ou même en séances de jeu. Le genre devient de plus en plus à la mode sur tous les médias, et nous allons voir ensemble certaines de ses œuvres qui partagent une vision singulière de l'espace, et aussi que j'ai bien aimé, parce que c'est ma sélection. Et en parlant de ce que j'aime bien, commençons par les jeux vidéo. Avec Star Citizen, c'est un jeu récent, open world, dans lequel le monde se génère aléatoirement à chaque début de partie, ce qui est très intéressant et qui offre une rejouabilité infinie, comme l'espace. Justement, ce jeu offre alors une expérience dans l'espace unique, dans laquelle on passe de planète en planète, en voyageant dans l'infini. On a aussi de nombreux jeux Nintendo sur le sujet, comme mon Mario préféré, Mario Galaxy, avec son ambiance flottante, son gameplay inédit qui joue justement sur la gravité des planètes, et ses musiques magnifiques. Il y a aussi la saga Metroid, qui présente une chasseuse de l'espace, Samus Aran, qui va découvrir des planètes et des virus mutants, avec une tension permanente et presque horrifique, sans toutefois l'être. Et aussi, pourquoi pas évoquer pour finir sur les jeux, la saga Pikmin, dont le quatrième opus va sortir cette année, et dans lequel Olimar, un petit astronaute très mignon, va obéir aux ordres de sa hiérarchie et se rendre sur des planètes pour asservir les Pikmin, les habitants des planètes. Alors comme ça, ça fait peur, mais en réalité c'est très mignon, l'ambiance est assez singulière et indescriptible, notamment avec ses musiques et son gameplay assez original. Côté livre, dans l'espace, on a classiquement l'encyclopédie de l'espace, qui vulgarise et explique tout ce qu'il faut savoir sur l'espace. Et d'ailleurs, quand on cherche des livres sur l'espace dans Google, on tombe principalement sur ce genre de livres, des livres qui visent à expliquer l'histoire de l'espace et ce qu'il s'y trouve, étrangement. On a aussi le livre de photos de Thomas Pesquet, s'intitulant « Dans la combinaison de Thomas Pesquet », qui présente des photos qu'il a prises durant les 6 mois qu'il a passé à l'ISS. Enfin, comment ne pas citer le classique des classiques, Le Petit Prince, de Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre, publié en 1943, est une création française, et c'est le livre le plus traduit après...
Le Petit Livre Rouge, la Bible.
Après la Bible et le Coran.
D'accord.
Il nous offre une histoire philosophique et une vision poétique de l'espace qui prend la forme d'un conte pour enfants. Pour ce qui est de l'histoire, tout commence sur l'astéroïde du Petit Prince nommé astéroïde B612, où un jour pousse une rose, fragile et belle, avec laquelle il va devenir ami. Il décide ensuite de visiter d'autres mondes car il s'ennuie sur sa petite planète. Il aura le droit à une magnifique adaptation en 2015, et c'est ce qui nous amène au 7e art. Car oui, les cinéastes sont nombreux à vouloir exposer leur vision de l'espace et spéculer sur les mystères de l'univers. On y trouve notamment l'incontournable Interstellar. Bon, je dis l'incontournable, mais en vérité, j'ai pas tout compris du film. Il est sorti en 2014 et offre une vision de l'espace assez particulière entre poésie et peur, puisqu'il prend place dans un futur proche dans lequel Cooper, le personnage principal, va nous faire découvrir ce qu'il se cache dans les trous noirs, notamment. En tout cas, c'est très bien réalisé et les images sont époustouflantes. Tout comme dans cet autre film, qui est dans un autre style, quoique c'est un film où j'ai pas tout compris non plus, Buzz l'éclair, sorti en 2022 des studios Pixar, qui a une vision, malgré ce qu'il laisse penser, qui n'est pas si enfantine, puisqu'on nous raconte comment les humains colonisent des planètes. Le film évoque aussi la vitesse de la lumière et la dilatation du temps. Bref, c'est super intéressant et ça reste très drôle et très agréable à regarder. Et en plus, il y a la voix de Chantal là-dessous. Et pour le coup, dans un style drastiquement différent, on a Alien. Cette série de 6 films de science-fiction sortis dans les années 80, 90 et même 2010 partage plutôt une vision horrifique de l'espace, avec un alien qui cause le malheur de différentes équipes d'astronautes en s'introduisant dans leur vaisseau et en tuant tout simplement les membres de l'équipage. Toute la peur et la tension du film résident surtout dans la réalisation de celui-ci. Par exemple, dans le 1, on ne voit pas du tout l'alien ou très peu, mais seulement un équipage perdu dans la galaxie avec ce message sur l'affiche « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Et les séries aussi parlent d'espace. On peut notamment évoquer les classiques comme Les Zinzins de l'espace, Rick et Morty, Star Trek. On a aussi les séries Star Wars, que je n'ai d'ailleurs pas évoquées dans les films, mais qui pour le coup utilisent l'espace davantage comme un terrain de jeu pour inventer des histoires. Mais j'aimerais personnellement vous parler de 2 récentes séries que j'ai beaucoup aimées.
Si tu nous parles d'OVNI,
et qui parlent d'espace.
Je quitte
tout
le studio.
D'abord, parlons de La Guerre des Mondes. Une création Canal+, dans laquelle des visiteurs venus d'ailleurs arrivent sur Terre et créent l'extinction de l'humanité, sauf quelques survivants. Et sans rien spoiler, malgré ce que laisserait croire le synopsis, ce n'est pas une énième série sur les extraterrestres, mais il y a un vrai scénario poussé, une ambiance singulière et particulière dans une tension permanente, et de vrais messages sur l'humanité, l'étranger, et même dans la saison 2, des voyages temporels. Bref, vous y trouverez forcément votre compte. Quoique, si vous cherchez une série drôle, ce n'est peut-être pas celle-ci qui vous ira le mieux. Alors je vous propose également de partir sur OVNI.
Ah non Antoine, mais il faudrait compter depuis le début de cette émission.
J'ai dû en parler deux fois.
Et 3-4 fois.
Tu sais quoi, je l'avais écrit, je crois que j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais on n'en parlera jamais assez. Et je vais vous dire pourquoi, et cette fois-ci on va plus s'attarder sur la vision qu'offre de l'espace OVNI. C'est une série Canal+, elle aussi, qui prend place dans les années 70, avec des personnages géniaux, attachants et très drôles, tout comme les dialogues, avec une histoire cohérente et poétique qui s'accompagne de vrais faits scientifiques sur l'espace et même les trous noirs. Donc on apprend même des trucs avec cette série. Qui nous présente donc le GEPAN, un groupe du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, qui a pour but, pour résumer, de faire comprendre aux gens que ce qu'ils ont vu n'est pas un extraterrestre, mais autre chose. Sauf que des choses étranges vont se produire, et peut-être que finalement ces ovnis n'ont pas tous une explication si rationnelle. L'ambiance est magique, presque dans les rêves, c'est une série dans laquelle on se sent bien avec deux saisons, sans oublier évidemment de parler de ces musiques somptueuses. Bref, OVNI, c'est une vision de l'espace singulière qui partage de vrais faits scientifiques dans une série pleine de poésie, avec toujours ces mystères autour de l'espace qui permettent aux auteurs de créer des histoires. En tout cas, l'espace, c'est un très beau terrain de jeu pour les créateurs, chacun pouvant partager sa vision des choses entre peur, humour, poésie, fantasme. Et avec tout ça, on n'a pas fini d'avoir des étoiles dans la tête.
Oui, merci Antoine, j'ai l'impression que tu as mieux compris les séries que certains films, dont Buzz l'éclair.
Oh, oui. Alors Buzz l'éclair, c'est un vrai débat. Est-ce que quelqu'un a vu Buzz l'éclair autour de la table? Et alors, est-ce que tu as compris, quand il voit son lui du passé, moi je n'ai rien compris.
C'est un peu le bordel.
Ah, quand même.
Bon, je pense qu'on va faire le débat hors
c'est
micro.
C'est un vrai film d'intellectuel en tout cas.
D'accord.
Oui, tout comme Les Anciens de l'espace.
Je vous propose de conclure cette émission. Merci à vous. Et Antoine?
Je pense qu'on va s'écouter Nous Jabès, Ordinary Joe, en featuring avec Terry Callier.
Yeah, what's up? It's Terry Callier. Got a new way to flow. Ordinary Joe. You know.
If you're lost in the stack, that's okay. Come on! think is real is nothing but an animated perfect show. So don't let time, space confuse you. Don't let name and form abuse you. Well, admit your William blues you. In the light of the sun, you can see how they run. Do 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 do